Aujourd'hui mercredi à Serocourt-le-Grand à 18h30 et demain jeudi à Rozoy-sur-Serre également à 18h30. À très bientôt dans l'Aisne.
Tous les dimanches à 20h10, le masque et la plume.
Il est sévère.
Non. Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Théâtre.
Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume, rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Bleu, les concerts privés. Les concerts privés présentés par Élodie Suigo avec Natacha Saint-Pierre, Véronique Sanson et la Grande Sophie.
Jeudi 10 mai à 20h30 sur France Bleu. France Bleu, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La différence.
Il est en studio pour Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, mais avant c'est toujours un répondeur.
Ouais, j'appelais parce que je me demandais si on a deux présidents là, et j'aimerais savoir si on paye les deux ou s'il y en a un qui fait ça bénévolement, quoi. Allez, merci, au revoir.
Bonjour, je viens d'entendre l'émission sur l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Vraiment, ça me fait vomir, car l'autre jour sur la 2, Madame Lucet, avec son grand sourire, présentait une usine PSA en Chine. Les ingénieurs étaient tous là dans des conditions de vie ultra confortables et PSA va ouvrir encore une troisième usine en Chine. Alors je pense qu'avec les nouvelles élections, ça va changer. Bon courage à Ahmed et à tous ces ouvriers qu'on exploite. Au revoir, à bientôt.
Tout un symbole. Deux platanes, 200 ans d'âge minimum, magnifique. Juste devant le collège des Bernardins. Quel est le crétin qui a décrété que ces arbres étaient foutus et qu'il fallait les abattre? Alors moi j'aimerais bien voir que tous, quand il y a des gens malades, on les coupe au pied. Voilà. Un arbre c'est une vie, bordel. Putain, non mais venez voir, venez faire un pèlerinage quoi. Il y en a un qui était malade, c'est sûr, l'autre, c'est clair qu'il n'était pas quoi. Putain, mais comment on peut couper les arbres comme ça?
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Hier, un auditeur a laissé un message disant qu'il avait le même prénom que le président et qu'il était bien content maintenant qu'on en change parce qu'à chaque fois qu'il entendait Nicolas prononcer, il se sentait concerné. Ben moi j'appelle pour la même raison, pour quelque chose d'un peu différent. J'ai exactement la taille de l'ancien président de la République donc. Et pendant 5 ans, m'être entendu traiter de nain, de nabo, etc., eh ben, ça m'a gonflé et même ça m'a fait mal. Voilà, eh ben, je suis bien content aussi d'entendre un peu moins tous ces qualificatifs qui, bien sûr, on me disait toujours, ah oui, non, mais on le dit contre lui, etc. Ben oui, mais on le dit pour ceux qui font 1m65, voilà. Eh ben, je suis bien content que ça cesse. Voilà, allez, salut.
Salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux. Je te remercie pour cette émission-là sur PSA Aulnay-sous-Bois. Ça fait chaud au cœur de voir des travailleurs qui relèvent la tête. C'est pas partout comme ça et c'est bien. C'est une entreprise qui ressemble un peu à ce qu'était Billancourt dans les années 70 où les mecs ils se laissaient pas faire. C'est bien. Par contre, je voudrais juste que tu précises ce qui s'est passé un peu en 82, c'est-à-dire la grève. Le militant en parle, mais il dit rien dessus. Je voudrais que tu nous rappelles un peu à notre mémoire ce que disaient les dirigeants socialistes à l'époque sur ces travailleurs émigrés. Hein. Et ça me rappelle une chanson de François Béranger, Tout ça, Mamadou m'a dit, hein, qui était un peu plus avant. Bravo encore pour cette émission. Salut Daniel.
Merci pour ces messages, chers AMG. Oui, effectivement, 82, grande grève, grand moment des luttes sociales. Il faudra revenir sur cet épisode un beau jour prochain. Aujourd'hui, on retrouve l'équipe du Monde Diplomatique, comme chaque mois. Vous savez, on retrouve toute cette brillante équipe aujourd'hui avec Serge Halimi, qui va nous dire pourquoi le changement c'est maintenant, qui va évoquer aussi les nationalisations, notamment en Argentine. Pierre Rimbert, qui va revenir sur l'équilibre du temps de parole lors de la campagne pour les élections présidentielles, temps de parole contesté par une partie, par l'élite médiatique. Benoît Bréville et Alain Grèche parleront des classes moyennes et des classes populaires, ce qui les oppose, ce qui parfois les unit. Augusta Conquiglia parlera de l'étonnante revanche de l'Angola sur le Portugal, son ancien colonisateur. Ça va nous faire un peu sortir de notre nombril hexagonal dans lequel nous sommes actuellement, tout comme Anne-Cécile Robert qui parlera des soldats ougandais en Irak. Très inattendue présence de ces pauvres bougres mercenaires dans les unités militaires privées en Irak comme en Afghanistan. Je voudrais attirer votre attention, même si ça fait pas partie des sujets du jour, sur ce qui se passe en Grèce actuellement. On essaye de suivre ça de près parce qu'on a fait, vous vous souvenez, deux séries de reportages sur sur la Grèce, et on assiste aujourd'hui à un rejet radical des politiques d'austérité imposées par l'Europe, la Banque Centrale Européenne et le FMI, c'est-à-dire la Troïka, le parti de centre-droit ND, Nouvelle Démocratie, et le parti de centre-gauche, le PASOK. Les deux partis qui étaient favorables au plan d'austérité se sont effondrés, tandis que les partis opposés à l'austérité ont considérablement monté. Or, on entend des commentateurs effrayés qui évoquent la poussée des partis extrémistes. L'Europe sous la pression des extrêmes, titre l'éditorial aujourd'hui du quotidien Le Monde, c'est faire quand même un drôle d'amalgame entre, en Grèce, la montée du parti qui s'intitule Aube Dorée, qui fait 7% et qui est vraiment le parti néo-nazi, qui a Mein Kampf comme livre de chevet, qui est ouvertement antisémite. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des images de ce parti, qui fait 7%. Amalgamer les extrêmes entre ça et le parti Syriza, qui est un parti de gauche radical et qui arrive en deuxième position, c'est quand même un peu excessif, et ça revient tout simplement à discréditer et à diaboliser la majorité des la très grande majorité des électeurs grecs qui refusent et rejettent le plan d'austérité imposé par la Troïka. C'est important d'avoir ça présent à l'esprit dans les conversations et discussions qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent, et dans les heures même qui viennent, entre la France et l'Allemagne, autour du prochain traité de constitution européenne, enfin, qui a pour projet, s'il est ratifié, d'imposer cette rigueur à l'ensemble de l'Europe. C'est des enjeux très importants, on en parlera dans les jours prochains. J'aimerais bien qu'on fasse comprendre tout ça à nos charmants AMG que vous êtes. Donc aujourd'hui le diplôme, auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour tout le monde, je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui. Ahmed et ses collègues, ils m'ont donné une pêche. En même temps, ils m'ont beaucoup émue, surtout quand ils ont crié « on n'est pas des délinquants ». Ça me choque qu'on ait encore à répondre ça. Mais après, je me dis, en faisant ce métier-là, et en se défendant, et en plus en témoignant, ces ouvriers font bien plus que de construire des voitures au sein de leur entreprise. Ils existent pleinement et ils réparent leur dignité et celle de toute la classe ouvrière. Et c'est pourquoi je tiens à leur dire merci, merci du fond du cœur. Et je remercie aussi toute l'équipe de là-bas si j'y suis, parce que vous leur permettez de s'exprimer. C'est Laura de Juan.
Eh bien, salut à tous. Eh bien, voilà, c'en est fini pour moi aussi. Parce qu'il paraît que de visage, je ressemblais à Sarkozy. Alors j'étais souvent interpellé comme ça, à gauche et à droite. Eh bien écoutez, je vais vous dire, je suis bien content que ça soit fini. Allez, salut à tous, c'était Guy de Lyon.
Bonne nouvelle, création d'un nouveau café repère à Bordeaux-Bacchanal. Venez fêter ça avec nous, mercredi 9 mai à 19h. Nous pourrons aussi discuter du nouveau locataire du palais, Vous nous direz ce que vous en attendez, si vous êtes heureux, satisfait ou inquiet. C'est au bar de la Marie, 28 bis rue Achard, station de tram Achard. Il y a un grand parking juste à côté. C'est à deux pas du garage moderne pour ceux qui connaissent. Mercredi 9 mai, à 19h. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Serge Alimi, Pierre Rimbert, Benoît Bréville, Alain Grèche, Anne-Cécile Robert et Augusta Conquiglia. Le monde diplomatique. Ok, nous voilà avec le monde diplomatique du mois de mai. Et nous sommes quelques jours après l'élection du nouveau président de la République, et les auditeurs de là-bas, si j'y suis, m'en voudraient énormément de ne pas vous demander vos analyses, réflexions, pensées ou silences. On va commencer par Serge Alimi.
Analyse, réflexion ou silence. Bon, écoutez, mais les premières réflexions que ça me suggère, c'est qu'on va être à la fois débarrassé de Nicolas Sarkozy et débarrassé de l'anti-sarkozisme. Et que c'est une double bonne nouvelle sur ce plan. Débarrassé de Nicolas Sarkozy, qui représentait une anomalie au sein même de la droite française, parce qu'on avait rarement vu à la tête de l'État une telle célébration de l'argent et de ceux qui en ont, une telle association avec les détenteurs de grandes fortunes. On avait rarement vu aussi une telle course aux thèmes les plus fétides de l'extrême droite. Donc ne plus avoir un chef de l'État de ce type est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi qu'on soit débarrassé de l'anti-sarkozisme, qui a été un peu le pendant de...
C'était une activité à plein temps, une industrie, on peut parler d'une industrie.
Une industrie à plein temps, des journaux, des sites d'information se sont créés autour de ce thème. Et l'intelligence politique n'en est pas sortie grandie. En quelque sorte, l'espèce de fixation que créait contre lui le président de la République a donné naissance à un exercice très récurrent où on analysait ses tics, ses vulgarités, ses fautes de style, et on avait l'impression de faire de la politique de très haut niveau en se fixant ainsi de manière quasiment obsessionnelle sur quelqu'un qui, par ailleurs, était quand même le chef de l'État et dont il aurait été peut-être plus intéressant de voir ce qu'étaient ses politiques et en quoi elles se distinguaient ou ne se distinguaient pas d'autres politiques mises en œuvre à la même époque par des gouvernements de droite dont les chefs d'État étaient tout à fait classiques, polis, réguliers, corrects, et parfois par des responsables de gauche. En d'autres termes, la fixation personnelle qu'a provoqué Nicolas Sarkozy a empêché parfois de voir que les politiques qu'il mettait en œuvre étaient des politiques relativement classiques dans le panel des politiques néolibérales qu'on a connues depuis au moins une trentaine d'années, qui se sont évidemment aggravées avec la crise de l'endettement.
Oui, j'entendais un éditorialiste du Figaro, Yves Tréhard, qui disait, Nicolas Sarkozy a perdu. Mais enfin, l'essentiel de sa politique n'a pas été remis en cause.
Bon, il n'a pas entièrement tort. Il est vrai que François Hollande a promis de revenir sur une bonne partie du programme fiscal de Nicolas Sarkozy, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les fortunes, la TVA, mais que la réforme des retraites est pour l'essentiel maintenue, que la réforme de la carte judiciaire est maintenue, que une partie des lois qui ont été votées et qui ont durci certaines dispositions pénales, tout ça n'est pas remis en cause, donc on va voir ce qu'il en est, mais c'est une campagne et c'est un candidat de gauche qui est infiniment moins audacieux que ceux qu'on a connus dans l'histoire et qui est très en deçà, puisqu'on a beaucoup évoqué 1981, la Bastille et François Mitterrand, qui est très en deçà de ce que proposait l'Union de la gauche il y a une trentaine d'années.
Alors, ça, c'est des réactions qui ne sont pas dans le monde diplomatique de ce mois de mai. Dans le monde diplomatique de ce mois de mai, Serge Halimi se tourne vers l'Argentine. On pourrait croire, en rentrant dans l'article, en commençant l'article, qu'il s'agit d'ailleurs, par exemple d'ici. Eh ben non, c'est là-bas.
Oui, le changement, c'est maintenant. C'est l'un des slogans de François Hollande. Et il était intéressant, au moment où on voyait la campagne française, d'apprendre qu'en Argentine, une présidente, puisqu'il s'agissait d'une présidente tout juste réélue, décidait de prendre une mesure assez spectaculaire, puisqu'elle nationalisait l'essentiel des avoirs d'une multinationale espagnole qui était actionnaire de la plus grosse compagnie pétrolière du pays. C'était une décision importante, elle était annoncée et séance tenante, deux ministres débarquaient dans les locaux et décidaient de chasser les propriétaires de l'entreprise privée. Et on se disait, tiens, il est possible de faire des choses assez audacieuses. À une période où en Europe, on nous explique qu'on ne peut rien faire parce qu'il y a les marchés financiers, les agences de notation, etc. On voyait en Amérique latine, une fois de plus, que des choses étaient possibles. Le mois dernier, dans le Diplo, on avait comparé les politiques mises en œuvre en Argentine il y a 10 ans et celles mises en œuvre en Grèce en ce moment. Et on avait vu que dans un cas, celui de l'Argentine, la colère avait enfanté l'audace. Et dans l'autre, celui de la Grèce, l'enlisement avait provoqué la colère. Et donc, il était intéressant de revenir sur ces deux cas et d'en conclure, mais c'est pas une conclusion très surprenante.
Alors que l'Argentine n'est pas un pays à classer auprès du Venezuela, de la Bolivie ou de l'Équateur. C'est pas un régime de gauche.
Non, c'est pas un régime de gauche. C'est un régime qui est assez sensible et à l'écoute de ce que veut sa population et qui parfois, quand sa population souffre un peu trop, décide d'aller envoyer valser les recommandations du FMI et les recommandations des experts économiques. Il faut se souvenir que dans le cas de l'Argentine, quand en 2001 le gouvernement avait décidé de ne plus rembourser la dette, puis avait décidé de dévaluer sa monnaie, chacun avait prédit à l'Argentine la catastrophe, la faillite financière, une flambée de l'inflation, une crise de la balance des paiements. 10 ans plus tard, où en est l'Argentine? La production argentine a presque doublé, l'emploi a atteint un niveau record, les dépenses sociales ont triplé et le nombre des pauvres a été divisé par 3. Résultat, quand Cristina Kirchner se présente pour un second mandat, elle est réélue, d'ailleurs dès le premier tour, avec 53% des voix. Donc il me semblait qu'il était intéressant d'avoir ce modèle à l'esprit, ce modèle du volontarisme politique, d'un président qui, dès qu'il arrive, prend des mesures assez audacieuses, d'autant que ces mesures sont très populaires et que naturellement elles lui font connaître très vite les critiques de la presse internationale, qui hurlent au vol, qui hurlent au scandale. Donc il y a, encore une fois, d'un côté la Commission européenne, le Wall Street Journal, le Financial Times qui se déclare scandalisé, et en face la population qui est assez satisfaite de ce que vient de décider son chef de l'État.
Alors que Madrid peste contre l'expropriation annoncée par Buenos Aires de la principale compagnie pétrolière d'Argentine,
Euronews,
détenue par une entreprise espagnole, les Argentins, eux, célèbrent la décision de leur présidente.
17 avril 2012.
Des centaines de manifestants se sont pressés sur la place principale de la capitale cette nuit.
Nous avons récupéré un peu de la patrie de l'Argentine. YPF signifie beaucoup pour le pays. C'est aussi une part de notre souveraineté. Ça veut dire l'indépendance économique. C'est quelque chose qui est très cher aux Argentins.
La compagnie YPF est leader sur le marché des combustibles en Argentine. Sa filiale dans le pays avait été privatisée dans les années 90. Aujourd'hui, les Argentins ont le sentiment d'avoir reconquis ce qui leur appartient.
Ce qui est intéressant, surtout s'il y a un changement de politique en Europe, on peut toujours rêver, c'est qu'à l'heure actuelle, la décision du gouvernement argentine a été très mal accueillie par les autorités européennes et qu'une fois de plus, les responsables des institutions européennes se sont placés dans le mauvais camp, en l'occurrence le camp des actionnaires espagnols, puisque la Commission européenne a estimé, je cite, qu'une prise de contrôle forcée de l'entreprise argentine enverrait un signal très négatif aux investisseurs et pourrait causer de sérieux dommages à l'environnement des affaires en Argentine. Que le Parlement européen lui-même, dont la majorité des députés est de droite, s'est exprimé dans le même sens. Et il me semble que l'Europe, l'Union européenne, aurait davantage intérêt à s'inspirer de l'exemple de l'Argentine qu'à se solidariser avec les actionnaires privés espagnols.
Le Monde, le quotidien Le Monde, s'interrogeait sur la marge de manœuvre du président, du nouveau président. Est-ce que vous pensez que François Hollande pourrait faire ce genre de choses? Quelles seraient les conséquences? Quelle est sa marge de manœuvre?
Écoutez, on a une première réponse que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, connaissent bien. Puisque récemment, François Ruffin a interrogé un député socialiste qui était la personne chargée auprès de François Hollande des questions industrielles. Et il lui a demandé si on pouvait envisager, dans des cas précis où une entreprise serait rachetée par un fonds spéculatif, que l'État s'en mêle et décide d'imposer sa volonté. Et la réponse fut, je cite, « L'État n'est pas compétent pour gérer des entreprises. Chaque fois qu'il l'a fait, ça a été une catastrophe. Vous voulez revenir à l'Union soviétique. L'Union soviétique l'a fait. C'est l'Union soviétique que vous proposez. »
Là, on se trouve au QG de campagne de François Hollande. Vous êtes un peu le monsieur industrie de François Hollande.
Là-bas, si j'y suis.
On est venu ici avec des délégués syndicaux CGT.
6 avril 2012.
Du groupe Arkema, de 4 sites Arkema. Le 6 mai au soir, François Hollande est élu. Est-ce que il peut y avoir la garantie pour les salariés de Arkema que leurs 10 sites, ces 1800 salariés, ne seront pas repris par un financier comme Gary Klesch?
François Hollande ne peut pas arriver et dire « Demain, je rase gratis ». Il serait irresponsable.
Pourquoi c'est pas l'État qui vient dire « Écoutez, moi je prends, je renationalise le pôle
Vinyl ». L'État n'est pas compétent pour gérer des entreprises. Chaque fois qu'il l'a fait, ça a été une catastrophe. Mais vous voulez revenir à l'Union soviétique dans vos questions? L'Union soviétique l'a fait. On n'est pas dans le... Non mais...
On se dit quand même qu'il y a des tas d'entreprises nationales en
France. Il faudrait d'abord apprendre à François Ruffin qu'il ne faut pas proposer l'URSS.
Mais c'était pas du tout ce qu'il proposait. Il rappelait d'ailleurs que lorsque la gauche était arrivée au pouvoir la fois précédente, ou en tout cas en 1981, elle avait un programme de nationalisation assez large dans sa panoplie. Ça n'avait pas provoqué de faillite particulière, puisque les entreprises nationalisées avaient été ensuite vendues à très bon prix, ce qui montre bien qu'elles avaient été assez efficacement restructurées par l'État. En tout cas, On avait avec ce discours-là quelque chose d'assez étonnant de la part d'un député socialiste qui ne semblait pas savoir que la Poste, par exemple, est une entreprise nationalisée, que la SNCF l'est aussi, et qu'après tout, ça n'est pas des entreprises qui sont moins efficaces ou moins appréciées que d'autres entreprises privées. En d'autres termes, je suis pas sûr que l'audace de Christina Kirchner y faille l'attendre en France. Je ne veux pas dire que la nationalisation soit la réponse à tous les problèmes, mais quand on s'interdit déjà d'utiliser cet instrument en prétextant qu'il renverrait à l'expérience de l'Union soviétique, en oubliant que toute l'histoire industrielle de la France et d'autres pays d'ailleurs a eu recours à ce type de technique, peut-être qu'on ne se prépare pas nécessairement à prendre des dispositions aussi audacieuses que la situation les appellerait.
Pourquoi c'est pas l'État qui vient dire « Écoutez, moi je prends, je renationalise le pôle
Vinyl ». L'État n'est pas compétent pour gérer des entreprises. Chaque fois qu'il l'a fait, ça a été une catastrophe.
Dans le diplôme de ce mois de mai, là, on a une réponse indirecte à une interrogation et une affirmation aussi de François Hollande, qui, dans son discours du Bourget, a dit qu'il avait un ennemi, un adversaire, qui était la finance, mais que cet adversaire, cet ennemi, n'avait pas de visage. Or, vous publiez un papier de Geoffrey Guens extrait de son livre, où Geoffrey Grinz dit « Si, la finance a un visage, elle en a même plusieurs, et il établit, c'est un de ses thèmes de recherche, des liens entre tous les pouvoirs confondus. » Et il montre bien, en donnant des noms, des adresses très précises, que la finance, c'est des financiers, et que ces financiers existent bel et bien, et qu'ils ont des liens avec... eh bien, avec les autres pouvoirs politiques, médiatiques, judiciaires, etc.
Et que parfois, on les retrouve pas très loin de partis sociaux libéraux, de des gens comme Pascal Lamy ou Jacques Attali, qui ont l'habitude de fréquenter des banquiers, des financiers, et parfois d'en tirer des rémunérations qui ne sont pas négligeables. François Hollande lui-même a analysé cette situation qui a vu un certain nombre de personnes issues des cabinets ministériels socialistes qui sont souvent devenus des chefs d'entreprise privés considérables. Et on pense évidemment à Jean-Charles Naouri qui a été directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy au ministère des Affaires sociales, puis au ministère des Finances, et qui est devenu le patron milliardaire de Casino. Et donc, dans son livre, Hollande écrivait, je le cite, « Une haute bourgeoisie s'est renouvelée, or il s'est retrouvé par un fait de circonstance que c'est au moment où la gauche arrivait aux responsabilités, en 1981, que cette mutation profonde du capitalisme s'est produite. Une génération, issue des cabinets ministériels des années 80, de gauche comme de droite, s'est retrouvé aux commandes d'entreprises. C'est l'appareil d'État qui a fourni au capitalisme ses nouveaux bataillons, ses nouveaux cadres, ses nouveaux dirigeants. Ainsi est apparue cette situation inédite où des hommes issus de la haute fonction publique sont devenus non seulement des responsables d'entreprises, mais aussi des détenteurs de fortunes considérables. Venus d'une culture du service public, ils ont accédé au statut de nouveaux riches, parlant en maître aux politiques qui les avaient nommés. Là est le fait nouveau. Un changement de hiérarchie s'est opéré dans l'ordre des pouvoirs. Puisque nous avons réussi, puisque nous sommes les représentants du capitalisme mondialisé, nous savons aujourd'hui ce qu'il faut faire, nous le savons mieux que vous, ont-ils dit. Aux yeux de cette nouvelle aristocratie, concluait Hollande, l'argent est devenu une référence bien plus fiable que le mode d'attribution du pouvoir politique. Fin de citation. C'est un livre qui a été publié en 2006 et c'est un diagnostic assez terrible sur cette interpénétration entre les milieux d'État, entre la haute administration publique, y compris et surtout au temps de la gauche au pouvoir, du temps des deux septennats de François Mitterrand, et l'enrichissement considérable d'individus qui après sont devenus des patrons de très grandes entreprises privées.
Serge Alimi, une question. Est-ce que il relit ça de temps en temps maintenant? Est-ce que le soir de son élection, il a relu ces lignes-là?
Je ne sais pas, mais si le changement c'est maintenant, le moment de relire ce passage et d'en tirer les conséquences, de veiller à ce que ces techniques de pantouflage, ce passage permanent d'un monde à l'autre, cette volonté d'imposer aux autorités politiques des mesures qui favorisent des intérêts privés, et cette perception par le monde politique du fait que le bien commun est servi par des patrons du privé, eh bien c'est une analyse que Hollande lui-même avait rédigée avec beaucoup de lucidité il y a quelques années.
Un président, est-ce que ça peut être ivre mort dans un café, lire les gros mots, faire la statue, un discours sans préparer? Un président, qu'est-ce que ça mange? Un président, qu'est-ce que ça boit? Est-ce que parfois ça le démange de ne plus parler la langue de bois? Un président, est-ce que ça pleure? Est-ce que ça connaît le malheur? Est-ce que parfois ça ne prend pas peur de serrer la main d'un dictateur? Un président, le tien, le nôtre. Un président, ou bien un autre. Un président, le tien, le nôtre. Un président, ou bien un autre. Ah, président, de quoi ça cause? Avec un autre président, est-ce que ça rit, est-ce que ça ose? Ou bien ça parle avec des gants? Un président, et c'est notoire, n'a pas réellement le pouvoir, qu'il soit de gauche ou bien de droite. Est-il puissant comme Ponce Pilate, ou simplement une marionnette à paravent, une girouette agitée par ceux qui dans l'ombre à coups de milliards dirigent le monde? Un président, est-ce que ça change? Un président, qu'est-ce que ça change? Un président, est-ce que ça change? Un président, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change?
On continue avec le diplôme du mois de mai. On revient sur la campagne elle-même et sur la répartition du temps de parole qui a posé plein de problèmes, voire même ont été quasiment au bord de l'insurrection dans certaines rédactions, en tous les cas chez certains journalistes, qui se sont insurgés contre cette exigence du CSA de répartir également le temps de parole. Il faut dire que, effectivement, c'est pas facile à respecter quand on a 10 candidats de leur donner un temps égal. Mais on a entendu quand même au cours de cette campagne des choses qu'on oubliera, mais qui seraient peut-être précieuses de pas tout à fait oublier.
On a en effet assisté à une espèce de mobilisation des journalistes contre l'égalité du temps de parole accordé à tous les candidats officiels, c'est-à-dire ceux qui ont déposé au Conseil constitutionnel le nombre de signatures requises. Et à ce moment-là, on a vu les directions de chaînes audiovisuelles, de RTL, d'Europe 1,
Pierre même Humbert,
de France Inter, écrire au Conseil constitutionnel pour protester contre cette loi sur l'égalité du temps de parole. Et puis je pense que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, n'y ont pas échappé. On a aussi entendu tout au long de la campagne des journalistes comme Pascal Clark, comme Arlette Chabot, comme Jean-Michel Apathy, fulminer contre ce principe d'égalité du temps de parole. Et certains ont d'ailleurs pris des accents déchirants comme Apathy, qui a expliqué, je le cite, « Moi, je voudrais qu'il y ait une révolte des manifestations de journalistes, qu'on aille devant le siège du Conseil constitutionnel, que deux ou trois confrères courageux fassent la grève de la faim. » Tout ça pour moduler, modifier, abolir cette loi sur l'égalité. Bon, sur le fond, que disaient les journalistes? D'une part, ils ont expliqué que cette loi sur l'égalité était archaïque, obsolète, dépassée, grotesque. Bon, c'est un discours qu'on connaît lorsqu'il s'agit de différentes conquêtes sociales. Mais là, d'autre part, ils ont expliqué qu'il était inconvenant, voire inacceptable, que l'État, que le législateur empiète sur la liberté des entreprises de presse. La liberté des grands journalistes, des directions éditoriales, de décider qui devait passer, à quelle heure, selon quelle scénographie, quelle dramaturgie. Et d'ailleurs, Arlette Chabot, qui dirige l'information sur Europe 1, a expliqué que cette loi sur l'égalité, je la cite, tout cela est antidémocratique. Alors, au fond, cette controverse, elle touche, je pense, à des enjeux importants. Quand les directions des grands médias s'attaquent à la loi sur l'égalité du temps de parole, elles ne font rien d'autre que contester à l'État son rôle dans l'organisation de la vie publique. C'est le reflet d'une lutte, en quelque sorte, qui oppose d'un côté les médias et de l'autre côté le monde politique autour de questions simples qui fixent les règles du jeu politique. Qui, du législateur, qui est issu du suffrage universel, ou bien des directions éditoriales, qui sont issues de la volonté de l'actionnaire, décident ce qu'est un candidat légitime. Et donc, qui fait le tri entre les idées politiques qui accéderont aux grands moyens d'information et celles qui n'y accéderont pas? Et dans ce domaine, pour le moment, la loi favorise l'égalité, du moins pendant les quelques semaines qui précèdent la campagne, et les journalistes, les directions éditoriales, plus précisément, elles réclament l'équité. Alors, les deux termes peuvent paraître un peu proches, mais ils sont fondamentalement différents. L'égalité possède cette vertu de remettre les compteurs à zéro. Une idée qui est minoritaire a le même droit d'expression et le même temps pour s'exprimer qu'une idée majoritaire. Et c'est la règle qui va s'appliquer lors des 5 dernières semaines dans la campagne. Alors que lors de la première partie de la campagne, dans le cas d'espèce entre le 1er janvier et le 19 mars dernier, la médiatisation des candidats a obéi à une autre règle qui est l'équité. Et là, avec l'équité, le temps de parole est distribué en fonction des sondages et des résultats des scrutins antérieurs. Ce qui signifie que l'équité accorde plus de temps aux idées qui sont déjà les plus répandues et moins de temps aux idées qui sont les plus marginales. C'est un peu comme si on distribuait les ressources, dans le cas d'espèce la parole, en disant le gros a droit à une double ration et le maigre a droit à une demi-portion. Et évidemment, les journalistes, les directions éditoriales privilégient l'équité et aimeraient évacuer l'égalité du temps de parole. Parce que cette égalité du temps de parole leur pose un problème, c'est qu'elle dynamite la dramaturgie habituelle des médias qu'on retrouve mise en scène à chaque élection. Deux premiers rôles, un ou deux seconds rôles, et puis des figurants qui, grosso modo, sont cantonnés au rôle de plante verte. Et avec 10 candidats représentés à part égale, à armes égales, ce schéma-là explose. Il explose et on a observé une espèce de fureur vengeresse de grands journalistes contre ceux qu'ils appellent les petits candidats. Des personnalités comme Nathalie Arthaud ou Nicolas Dupont-Aignan, parfois ces petits candidats introduisent un peu de sable dans les rouages. Et on l'a vu à plusieurs reprises, par exemple au grand journal de Canal+, du 13 avril, lorsque Nicolas Dupont-Aignan a mis le présentateur Michel Denisot et son éditorialiste Jean-Michel Apathy au défi de dévoiler le montant de leur salaire. Et devant leur refus, lorsqu'ils s'exclament, je le cite, « Vous ne pouvez pas dire dans les yeux combien vous gagnez aux Français, parce que c'est une somme tellement extravagante. » Et là, on voit ces deux vedettes du journalisme français qui sont au bord de l'apoplexie. Tout ça, ça a été tout de même grâce à cette loi sur l'égalité du temps de parole, et c'est grâce à ce règlement que les grands journalistes aimeraient faire sauter, qu'on a pu assister, que des millions de téléspectateurs de TF1 ont pu assister à un cours de pédagogie fiscale administré par Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, à Claire Chazal. Je cite Poutou, « Les richesses, par exemple, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le patron de la chaîne, Martin Bouygues. 2,5 milliards de fortune, c'est inadmissible. » Et Poutou finit son explication devant une Claire Chazal médusée en disant « ça veut dire qu'il va falloir exproprier ».
Et alors, moi, je trouve que...
Franz-Olivier Gesbert.
Bon, il y a vraiment des candidats qu'on aurait pu nous épargner, franchement.
Venez avec moi un jour non, sur le terrain. Raison. Mais on vit pas dans le même monde, mais oui, monsieur
Denisot. Mais si, monsieur, où je suis.
Nicolas Dupont-Aignan.
Eh bien, donnez-nous votre salaire. Combien vous gagnez?
Mais c'est moi qui le fais.
Combien vous gagnez?
Ça vous regarde.
Ça vous regarde pas. Dites-le aux Français. Mais combien vous gagnez?
Vous êtes qui?
Vous ne pouvez pas dire droit dans les yeux combien vous gagnez aux Français. Parce que c'est une somme tellement extravagante.
Et je trouve qu'en plus, il disait des choses assez intéressantes sur le pouvoir. C'est-à-dire qu'il est très bien connu,
président. Là. Hein, franchement, là.
Dites combien vous gagnez aux Français.
Non, je vous dirai
pas. Eh ben, voyez.
Traitez-nous de voleurs.
Donnez vos salaires.
Mais traitez-nous de
voleurs.
Traitez-nous de voleurs.
Je ne traite pas de voleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Osez dire votre salaire.
Mais mon salaire, monsieur.
Osez le dire.
Je le mérite, mon salaire.
Mais peut-être, alors dites-le si vous le méritez.
Eh bien, je ne vous le dirai pas.
Ah,
vous n'êtes pas un inquisiteur.
Voyez.
Que des médias audiovisuels privés,
Jean-Michel Apathy,
soit concerné par cette réglementation est incompréhensible. Moi, je voudrais qu'il y ait une révolte, des manifestations de journalistes, qu'on aille devant le siège du Conseil constitutionnel, que d'autres confrères courageux fassent la grève de la faim, pas moi. Hein.
Après, Eva Joly, franchement, c'est l'erreur de casting absolue. On comprend rien de ce qu'elle dit, d'ailleurs tout le monde s'en fout.
On veut faire entendre comme voix dans ces élections-là, c'est contester le capitalisme, c'est faire entendre une voix féministe, antiraciste,
Philippe Poutou,
et internationaliste. Par exemple, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le patron de la chaîne, hein, Martin Bouygues, hein, 2,5 milliards de fortune, et ça c'est inadmissible.
Là on attaque le gros dossier du diplôme de ce mois de mai sur les classes moyennes. L'interférence un peu entre les classes moyennes et les classes populaires. Les classes moyennes sont a priori assimilées à une idée de conservatisme et les classes populaires assimilées à l'idée de progrès, etc. Or, en avançant dans votre dossier, on voit que c'est parfois le contraire. Benoît Brévi.
Effectivement, comme vous disiez, pendant très longtemps, elles ont été associées à une image de conservatisme social. C'était l'image d'Épinal, du petit propriétaire aux horizons étriqués qui était par essence hostile à tout changement politique et social. Et on a pu voir au cours des deux dernières années, disons, un changement d'image assez radical qui vient notamment des mobilisations de l'année 2011, le mouvement des indignés espagnols, le printemps arabe, Occupy Wall Street, les étudiants chiliens, etc. Où l'image du membre typique de la classe moyenne était... le jeune diplômé féru d'internet et de réseaux sociaux qui, par peur du déclassement, était désormais prêt à se mobiliser et à descendre dans la rue pour mettre en œuvre le changement social. Et en 2012 encore, on a eu, avec les grandes élections présidentielles qui se passent actuellement en Russie, aux États-Unis, en France, une nouvelle mobilisation des classes moyennes qui les a placées au centre de l'attention politique, parce que désormais le jeu, c'est de se présenter comme étant le candidat des classes moyennes. Alors on peut penser à Mitt Romney qui critiquait Barack Obama, donc le candidat républicain, en disant « les gens qui ont été les victimes de la politique d'Obama, ce ne sont pas les riches vont très bien, ce sont les membres de classes moyennes. Mon projet de président, c'est d'aider les classes moyennes ». Donc désormais, il y a cette espèce d'idée que la classe moyenne étant la classe majoritaire, eh bien elle est la clé du succès électoral. Or, au-delà de ces discours qui parlent ces classes, ces couches intermédiaires de toutes les vertus, nous, on a essayé de s'interroger sur quels étaient leurs rôles précis de ces couches intermédiaires. Donc, quel rôle elles ont véritablement joué dans les mobilisations récentes? Quel rôle elles jouent dans les contextes électoraux? Qui étaient les opposants à Vladimir Poutine, les participants au mouvement Occupy Wall Street, les indignés espagnols, etc. Et donc, on a plusieurs enquêtes et reportages, dont un reportage qui nous mène de Londres à New York, en passant par Nashville et le Chili de Raphaël Kempf, qui est allé voir au concret comment ça s'organisait, quelles étaient les revendications de ces gens, d'où ils venaient, est-ce qu'il y avait des points de concordance entre les différents pays. Et plus largement, enfin, et ça c'était le grand papier de cadrage qui est un papier historique, on s'interrogeait sur la question des stratégies d'alliance de ces classes moyennes. Avec quelles classes elles se solidarisent? Est-ce que ce sont plutôt tournées vers, historiquement, vers les classes populaires pour essayer de mettre en œuvre des projets de changement social? Ou alors au contraire, est-ce qu'elles se sont alliées plutôt avec les classes dominantes pour favoriser le conservatisme et donc le maintien de l'ordre existant? Et donc un article de Dominique Pinsol revient sur deux siècles d'alliances de classes entre classe populaire, classe ouvrière et classe moyenne d'un autre côté, pour voir quels ont été les échecs, les succès, donc dans les pays d'Europe au 19e et 20e siècle, en Amérique latine. Et dans l'article d'Alain Grèche, il s'interrogeait sur la même problématique à propos des pays du tiers-monde. On peut voir que c'est des logiques assez différentes.
Alain Grèche. Oui, c'est-à-dire la problématique des couches intermédiaires ou des couches moyennes depuis le développement de la pensée socialiste en Europe, c'était l'idée qu'il y avait une classe des capitalistes, il y avait une classe ouvrière, les prolétaires exploités, et entre les deux, il y avait toute une série de catégories intermédiaires, et que le problème de la manière dont ces classes intermédiaires se situaient pouvait être important, est-ce qu'il fallait s'allier à elles ou non, etc.
Il y a un exemple qui est donné sur le Front populaire. Vous racontez comment, en 1936, après que les forces populaires, après les élections, aient continué le combat avec des occupations pour obtenir ce qu'on sait sur les congés payés, les 40 heures, etc., comment la classe moyenne, à l'époque, s'est retournée contre la classe populaire et a manifesté en disant, voilà, ils vont bloquer l'économie, etc. Il y a ces moments-là.
Mais c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi, dans tous ces combats, à quel point ça dépend des objectifs fixés à un moment. C'est-à-dire que on a vu très bien ce débat durant la guerre civile en Espagne, c'est-à-dire entre un courant du Front populaire qui pensait que la révolution sociale était la priorité et un courant, paradoxalement ou pas, soutenu par les communistes, qui disait que la priorité c'était la lutte contre le fascisme et que donc du coup il fallait rassurer les couches moyennes et ne pas aller au-delà d'un certain seuil. Mais là aussi, ça, bon, cette position des couches moyennes dépend des objectifs que les forces politiques se fixent à un moment et qui diffèrent de manière importante. Mais de toute façon, ces problèmes se posent parce que la question est celle d'une comment et autour de quoi on constitue une majorité politique. Et jamais dans l'histoire du mouvement, disons, ouvrier et socialiste, la classe ouvrière n'a jamais vraiment été majoritaire au sens électoral ou démographique du terme. Elle avait besoin des employés, elle avait besoin d'une certaine manière d'une partie de la petite bourgeoisie.
Et elle n'a jamais été systématiquement progressiste, contrairement à ce qu'on souhaiterait.
Mais là aussi, on peut voir, j'ai une classe ouvrière, c'est-à-dire quand on parle de progressisme, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux transformations sociales, aux augmentations de salaire, ou aux mœurs, par exemple, qui est devenu un des éléments, enfin dire... Le conservatisme d'une partie de la classe ouvrière est devenu un des éléments par lesquels la droite essaye de maintenir son hégémonie sur cette classe ouvrière en utilisant ce qu'ils appellent les valeurs, avec d'autant plus de force que la gauche souvent a abandonné ce qui constituait le cœur de son discours. Ce n'est pas un discours simplement revendicatif, augmentation des salaires, etc., mais aussi un discours de valeurs.
Serge Halimi.
Oui, pour revenir à cet exemple concret du Front populaire, il y a à l'époque un parti qui incarne les classes moyennes, qui est le Parti radical. Et on constatera un basculement d'une étape à l'autre. Première étape, le Parti radical est mobilisé avec la gauche, parce qu'à cette époque, L'objectif est de lutter contre l'extrême droite, contre les ligues, contre le fascisme. Donc une alliance à gauche contre l'extrême droite. À partir du moment où cette alliance est réalisée et débouche sur le succès électoral, à partir du moment où les grèves se déclenchent dans les usines, une partie de cette base qui votait pour le parti radical s'inquiète, et son inquiétude n'est plus d'abord l'inquiétude de voir le fascisme arriver au pouvoir, mais l'inquiétude de voir le chaos social s'étendre en France à la suite des grandes grèves ouvrières.
Gaumont Actualité, 1er juin 1936.
À Paris et dans la région parisienne.
Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades ?
Oui !
Pour les revendications, les pipites !
Oui !
Dans le nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers. Comme leurs camarades parisiens, ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit.
Et on voit que les grèves ouvrières sont le moment qui provoque le basculement d'une partie des classes moyennes de la gauche vers la droite. Elle a envie, en quelque sorte, que l'interruption sociale s'interrompe, que l'ordre revienne, et c'est ce qui se passe très souvent. On évoque aussi dans le dossier l'exemple du Chili. Au Chili aussi, vous avez une partie des classes moyennes qui, au départ, soutient l'unité populaire et la gauche, et qui, progressivement, à mesure que l'inflation se déchaîne, que l'inflation donc attaque les revenus de cette couche sociale qui a des revenus, qui a des actifs financiers, eh bien, cette couche sociale bascule du côté de la droite et assure l'appui au coup d'État du général Pinochet.
Les insurgés de la classe moyenne, dans leur tiédasse rébellion, aiment à s'afficher ouverts différents, mais ressentent à leurs parents. Affalés dans leur luxueux salon, ils devisent et parlent d'art, de performance, de lyrisme, d'expression, dans un langage châtié et rare. Permettez-moi d'exprimer la crasse plus que l'élégance. Ici, le fond importe peu, et seul compte l'apparence.
On continue avec le papier de une du Diplo sur ces mercenaires africains engagés dans les guerres américaines. Et on voit que des mercenaires venus d'Ouganda, contre des promesses d'obtenir des passeports états-uniens, sont engagés dans ces guerres d'Irak ou d'Afghanistan, souvent dans des compagnies, dans des sociétés militaires privées en plus. Ce qui est quand même un avantage pour le pouvoir américain.
Ah, c'est très pratique et nous avons...
Anne-Cécile Robert.
Nous avons lancé un journaliste qui s'appelle Alain Vicky sur ce dossier trop méconnu encore. Et il a pu rencontrer des Ougandais notamment qui ont été employés à différentes tâches par l'armée américaine ou des sociétés traitant avec l'armée américaine pour soutenir l'effort de guerre, notamment en Irak. Au départ, on fait miroiter des contrats mirobolants, des salaires merveilleux à ces personnes, et quand ils arrivent sur place, ils se retrouvent mal payés, à travailler 15 heures par jour, sans congé, sous-équipés. Parce que quand il y a des tempêtes de sable en Irak, les soldats américains sont bien protégés, mais ces mercenaires ougandais n'ont pas de gants, n'ont pas de lunettes pour se protéger. On les traite vraiment n'importe comment. Et ce qui est dramatique, entre autres, c'est que ça fait quand même, on a pu chiffrer, 70 000 personnes concernés. À l'apogée de la présence américaine en Irak, où il y avait à peu près 200 000 soldats, on dénombre 70 000 mercenaires, disons ressortissants étrangers sous contrat, qui étaient soit des employés de sécurité, soit des soldats, mais ça peut être aussi des électriciens, des cuisiniers.
Logistique.
Voilà, toute l'intendance, toute la logistique, sans laquelle, finalement, la présence américaine n'aurait pas pu être assurée. Et déjà pendant l'occupation américaine, la situation de ces mercenaires ou de ces ressortissants sous contrat était très dégradée. Alors depuis que l'armée américaine s'en va, alors là plus personne ne les connaît, on s'occupe même pas de leur rapatriement. Certains sont blessés, malades, aucune compagnie d'assurance ne veut entendre parler d'eux. On soigne des infections oculaires avec de l'aspirine, enfin c'est absolument n'importe quoi. Et ce qui est intéressant dans l'enquête d'Alain Vicky, c'est que déjà il a rencontré certains de ces soldats qui ont tout abandonné pour aller en Irak.
Ils ont été recrutés spécialement. Il y a des recruteurs qui sont venus en Ouganda où il y a des annonces. Comment s'est fait le recrutement?
Les liens entre l'Ouganda et les États-Unis sont assez anciens, parce que l'Ouganda est un des fidèles alliés américains en Afrique centrale, dans les Grands Lacs. Et le président ougandais, Yoweri Museveni, a soutenu depuis le départ la guerre contre le terrorisme menée par George Bush. Et il y a des liens militaires, c'est-à-dire que vous avez des compagnies de sécurité privées américaines qui travaillent en Ouganda, qui font de la formation, etc. Et il y a des échanges croisés de militaires qui se forment les uns les autres entre l'Ouganda et les États-Unis. Donc les liens étaient déjà anciens et ils sont facilités par le fait que l'Ouganda est un pays anglophone. Donc c'était beaucoup plus pratique pour aller faire du recrutement dans ce pays. Et il se trouve que au début des années 2000, une partie de l'armée ougandaise était démobilisée parce que la guerre en République démocratique du Congo se terminait. Donc il y avait beaucoup de soldats ougandais désœuvrés qui menaçaient la paix civile ou qui pouvaient provoquer des troubles. Donc le gouvernement était bien content de pouvoir les expédier assez loin au Proche-Orient pour les occuper un peu. Donc il y a eu un peu un cercle vicieux pour que ces gens se retrouvent expédiés au Proche-Orient, un petit peu déposés comme des paquets. Il y a un témoignage assez pathétique d'un jeune informaticien de Kampala qui dit « Quand les recruteurs américains sont arrivés, j'ai dit à mon patron que je m'en allais, j'ai tout laissé tomber. » Et en quelques heures, je me suis retrouvée à Bagdad, j'y connaissais rien, je connaissais personne, je me suis retrouvée dans un baraquement, et il a dit « C'est la plus grosse erreur de ma vie. » Et derrière ça, il y a des situations humaines terribles. Et Alain Vicky a rencontré une avocate qui bénévolement s'occupe de ces gens pour constituer les dossiers, pour essayer de leur obtenir au moins des droits, s'ils peuvent pas être totalement indemnisés ou totalement payés, qu'au moins quand il y a des maladies graves, des pathologies. Certains ont des pathologies squelettiques parce qu'on leur a porté des bardas beaucoup trop lourds pour eux. Enfin, c'était un peu des sherpas ou des coulis, comme on disait dans le temps. Et donc, ils ont plein de maladies qui sont souvent des maladies de longue durée avec zéro protection sociale. Donc, cette femme qui est vraiment héroïque.
Mais est-ce que certains d'entre eux ont obtenu des papiers pour aller aux États-Unis ou non?
Non, en fait...
C'était ça la carotte, c'était ça la promesse.
Alors ça, c'était surtout pour les Mexicains à qui on a fait miroiter des cartes vertes, mais là, c'était même pas le sujet. C'était qu'on leur promettait des revenus, une formation dont ils pourraient éventuellement tirer profit en rentrant au pays, mais il n'était pas forcément question qu'ils puissent après aller aux États-Unis. C'était simplement la garantie pour eux d'un emploi souvent intéressant, plus... L'armée américaine, à l'apogée de la présence en Irak, avait beaucoup de moyens. Donc c'était, dans tous les cas, pensait-il, une bonne carte de visite, une formation, et puis de l'argent qu'il pensait engranger. C'est toujours pareil. Hein. On promet à ces gens qui sont en position très précaire en Ouganda de gagner en quelques semaines ce qu'ils ne gagneraient qu'en 10 ans. Donc pour eux, ils se disent, voilà, je vais amasser quelques milliers de dollars, ensuite je vais rentrer à Kampala et je serai le roi du pétrole.
Beaucoup ont été tués.
Oui, on n'a pas forcément les chiffres, mais il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, parce qu'en plus, c'est les gens qu'on met dans les situations les plus difficiles, et qui, même quand on les met pas dans les situations les plus difficiles, sont les moins bien équipés. Hein, je vous citais tout à l'heure l'absence de gants, mais tout était à l'avenant, comme ça, aucune protection. Ils sont à chaque fois dans la situation la plus difficile. Donc c'est un vrai scandale qui est d'autant plus préoccupant qu'il y a eu un rapport du Congrès des États-Unis il y a quelques semaines qui déplore évidemment la situation de ces pauvres gens, mais qui annonce que l'armée américaine, pour protéger leur ambassade en Irak ou en Afghanistan, auront encore besoin dans le futur de ressortissants étrangers sous contrat. Et donc, il est fort à craindre qu'on retrouve encore dans le futur, si ce n'est des Ougandais, des Sud-Africains, des Maliens, dans cette situation terrible.
Et tout ça, c'est dans le monde diplomatique de ce mois de mai. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, qui sera enrichi du sujet sur Angola, Portugal. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, c'est Bertrand Chometon et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez. On rigole parce qu'ils voulaient pas qu'on dise leur nom tellement ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 34.
Votre boulangerie est un succès. Vos croissants se vendent comme des petits pains, vos pâtisseries régalent les gourmands, vos baguettes s'arrachent et la paperasse s'entasse. Bref, vous avez du pain sur la planche.
Avec votre espace client EDF Pro, consultez vos factures et vos contrats, communiquez vos relevés d'index et payez en ligne votre consommation réelle. Créez vite votre espace client pro sur edfpro.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et le Théâtre de la Ville présentent du 10 au 19 mai Césena, d'Anne Teresa de Kersmaeker. Dans cette nouvelle création pour 19 danseurs et chanteurs, la chorégraphe se passionne à nouveau pour l'Ars Subtilior, ce mouvement musical du 14e siècle qu'elle aborde cette fois-ci avec le directeur musical Björn Schmelzer et son ensemble vocal Grain de la Voix. Retrouvez Césena, d'Anne Teresa de Kersmaeker dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle du 11 au 15 juillet. 5 jours de live et plus de 130 concerts avec Zelda, Jeanne Chéral, Chaka Conk, Moriarty, Anaïs, Dominique A. Retrouvez-les dans les programmes de France Inter. Renseignements au 05 46 50 55 77 sur francofolie.fr et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Les infos, Laetitia Gaillet, salut.
Le premier test européen pour François Hollande cet après-midi. Le président élu reçoit à Paris Herman Van Rompuy, le président de l'Union européenne. Demain, ce sera Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe. Deux tête-à-tête importants au moment où Angela Merkel avance elle aussi ses pions. La chancelière allemande a rejeté à nouveau cet après-midi toute renégociation du pacte budgétaire européen. Avant cette parenthèse européenne, François Hollande a tenu son dernier conseil politique à son QG de campagne ce matin. Il y a exprimé sa fierté, sa joie. Il a été aussi question des législatives, mais pour le gouvernement, aucune information n'a filtré pour l'instant. La réponse de Jean-François Copé aux propos tenus par Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles, tout accord local avec le FN serait contraire à la ligne de l'UMP. Si certains engagent de telles démarches, on en tirera les conséquences au niveau national, explique le secrétaire général de l'UMP dans un entretien à paraître vendredi dans le Figaro Magazine. Dans Valeurs Actuelles, la présidente du FN exclut elle aussi tout accord avec l'UMP, mais elle n'est pas fermée, dit-elle, à une entente et à des discussions au cas par cas. Le magazine des Arocs a été condamné aujourd'hui pour avoir diffamé la Fédération socialiste du Pas-de-Calais. En décembre dernier, les Arocs avaient publié un article sur des malversations présumées au sein du parti. La Fédération PS du Pas-de-Calais réclamait 50 000 euros. Le tribunal de grande instance de Paris a condamné le magazine à 1 euro de dommages et intérêts. 13 policiers de Paris ont été placés en garde à vue aujourd'hui. Ils sont interrogés dans le cadre d'une enquête sur un viol présumé commis sur un jeune engagé dimanche dans un bus et filmé sur un téléphone portable. Le jeune homme en question accuse ses collègues de l'avoir violé après une séance de bizutage qui a mal tourné. Le service départemental d'incendie et de secours de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques, cette fois, est lui soupçonné de détournement de fonds. Le parquet de Pau vient d'ouvrir une information judiciaire. Cela fait suite à une plainte déposée au début de l'année. Des sapeurs-pompiers bénéficiant du double statut professionnel et volontaire auraient déclaré des interventions qui n'auraient pas eu lieu afin de se faire payer des vacations. Les faits remontent à 2005 et 2010. Les craintes de force ouvrière à la veille d'un comité de groupe chez Carrefour. Le syndicat redoute aujourd'hui une réorganisation de tout le secteur de la grande distribution en France. Restructuration qui toucherait près de 12 000 salariés affectés principalement aux produits tels que l'électroménager ou la téléphonie. Et chez Carrefour, selon Info, il pourrait y avoir 3 à 5 000 suppressions de postes. Casino, Leclerc, Intermarché et Système U pourraient aussi être touchés. À l'étranger, la Turquie refuse aujourd'hui d'extrader le vice-président irakien Tarek al-Hashemi. Pas question, dit Ankara, nous n'extraderons pas quelqu'un que nous avons soutenu depuis le début. Hier, Interpol a émis un mandat d'arrêt international. Tarek al-Hashemi est poursuivi dans son pays pour meurtre. L'ancienne première ministre ukrainienne Yulia Tymoshenko a cessé la grève de la faim aujourd'hui qu'elle observait depuis le 20 avril dernier. L'information vient du médecin allemand qui la soigne à l'hôpital de Kharkiv en Ukraine. Yulia Tymoshenko y a été transférée ce matin. Elle souffre de plusieurs hernies discales. Elle affirme avoir été frappée par des gardiens de sa prison, ce que réfute aujourd'hui l'administration pénitentiaire ukrainienne. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Animasana.
Incorporé Sano.
Bonjour Margaret.
Bonjour docteur.
Philippe.
Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu.
L'esprit, c'est elle.
Le corps, c'est lui.
Allô?
Nous vous écoutons.
Nous vous répondons.
Coûte que coûte.
Non mais vous écoutez rien du tout là, c'est pas possible.
Si, non. Parce que figurez-vous que c'est mon métier d'écouter. Et je pense que, comme vous, nous sommes des gens qualifiés.
À votre écoute, coûte que coûte.
Je crois que je vais raccrocher. Argent pour tout.
Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
La différence.
Il vous le dira pas, mais il est venu en famille, Frédéric Lodéon.
Eh ben oui. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Dans quelques minutes, vers 16h30, je recevrai le jeune et brillant chef d'orchestre Jérémy Rohrer. Pour plusieurs raisons, son festival Mozart au Théâtre des Champs-Élysées, et puis un disque de musique française romantique. Mais pour l'instant, comme c'est la journée de l'Europe, on va célébrer ça avec un disque et l'orchestre, justement l'orchestre de chambre d'Europe. Il joue Vivaldi et pourquoi pas choisir un concerto qui s'intitule Le Plaisir, premier mouvement Allegro. Thank you. Le premier mouvement Allegro du concerto dit Le Plaisir de Vivaldi, interprété en soliste par Marieke Blankenstein, avec l'orchestre de chambre d'Europe. Europe toujours, et ce fameux orchestre qui se réunit pour des projets de temps en temps. Chacun quitte son domicile, son travail, pour répéter puis voyager dans le monde entier. D'ailleurs, voici un très beau disque encore, c'est Claudio Abbado qui dirige cet ensemble tout à fait étonnant. Et ce sont des ouvertures de Rossini qui nous sont proposées. Cendrillon, c'est un conte qui est maintenant universel, il est bien européen. Il ne fait plus tellement peur, mais il donne de bonnes idées. On peut être une petite personne sans défense, apparemment, et finir par trouver son chemin. La Cenerentola en italien, donc Cendrillon, et puis Rossini avec tout son bagout, avec toute sa façon d'écrire, le crescendo orchestral, cette impression de vague musicale, presque comme l'océan qui commence à gronder partant de peu. Enfin, c'est une technique, c'est un style, c'est un homme, Rossini.